Bonjour, nous sommes sur Allega FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous sommes avec Patrice Van Hersel pour parler d'un livre de 650 pages qui vient de sortir chez Très Daniel, un livre de Rupert Sheldrake, La mémoire de l'univers, sous-titré Une hypothèse révolutionnaire qui pourrait remettre en cause notre vision du monde. Bonjour Patrice.
Bonjour Yves.
Alors tu m'as amené un numéro d'Actuel avec le premier article que tu as publié sur ce savant, qui est l'article s'appelle « La forme de tes hanches est une onde ». Et le numéro a l'air très spécial. Oui, de quoi s'agit-il?
C'était en 1983. Il nous avait frappé, ce scientifique, dès 1981, parce que des articles très élogieux sur lui étaient parus dans une revue scientifique anglaise qui s'appelle New Scientist, et qui n'est pas du tout aussi connue et importante que Nature. Nature, la revue à laquelle tout grand scientifique rêve d'être référé. Mais New Scientist était une revue tout à fait sérieuse, et il disait, voilà, il y a quelqu'un en Angleterre qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui est biologiste au départ, botaniste, généticien botaniste, et qui a écrit A New Science of Life. Alors, on en a parlé rapidement, et puis il a fallu attendre 2 ans que ça soit traduit en France. Ça a été publié aux éditions du Rocher, New Science of Life, nouvelle science de la vie. Et je suis allé le voir en Californie. En fait, il donnait ce que tu as sous les yeux là, c'est un atelier qu'il a donné en Californie. Et alors, qu'est-ce que, en gros, pour essayer de dire déjà en une phrase le fond de sa théorie, c'est qu'il dit que les sciences d'aujourd'hui, les sciences modernes, ne tiennent pas compte des formes auto-générées. Alors, c'est quoi les formes autogénérées? C'est évidemment toutes les formes vivantes, toutes les formes que prend la nature. Mais ce sont aussi des formes, ça peut être des formes purement chimiques, par exemple un cristal s'autogénère. Et puis, ça peut être des formes, alors c'est plus subtil, mais ça peut être des formes de pensée, ça peut être des formes... des formes sociales aussi, toutes les formes qui jaillissent depuis le très subtil jusqu'au très, ou plutôt disons-le à l'envers, depuis le très 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 matériel jusqu'au plus psychologique, eh bien ces formes, elles ne sont pas expliquées par la science. Et quand tu remontes dans l'histoire de ce gars, en fait au départ il est... Dès tout petit, il est fasciné par les formes, par le nombre de formes. Et nous ne sommes pas assez fascinés. Je trouve qu'on est un peu endormi. Tu te balades dans n'importe quel... Mais même dans un terrain vague, tu te promènes dans n'importe quel jardin. Les formes que prend la nature, les formes que prennent, je ne sais pas, les insectes, les formes que prennent les végétaux, toutes les formes, c'est absolument incroyable d'imagination, on pourrait dire. C'est de la créativité de la nature. Elle est complètement fantastique. Et c'était un enfant qui était, comme ça, fasciné par les formes, qui restait ébloui, qui ne s'habituait pas. Parce que nous, on s'habitue, ça devient banal. Et quand il a fallu faire des études, il a fait des études de biologie, puis de botanique, et puis de génétique. Parce que, bien entendu, surtout à partir des années 50, quand on a découvert l'ADN, mais on s'en doutait déjà avant la découverte de l'ADN, on disait qu'il y avait des gènes, on ne savait pas exactement ce que c'était, eh bien, toutes ces formes, elles s'expliquent, au moins pour les formes vivantes, biologiques, eh bien, ça s'explique par les gènes. Les formes Toi, si tu as cette forme, je te vois en face de moi, tu as une certaine forme, et ben parce que c'était inscrit dans tes gènes, depuis le moment où tes parents t'ont conçu. Or, et il en était persuadé, donc il s'est mis à chercher, il a travaillé sur... il a découvert quelques... il a fait de la recherche, il était à Cambridge, il a fait quelques découvertes sur certaines enzymes qui ont une influence sur la formation de protéines, puisque nous sommes... ce qui nous structure, n'est-ce pas, ce sont les protéines. À l'intérieur, il y a ensuite des glucides qui sont de l'énergie, et puis des lipides qui facilitent, n'est-ce pas, la circulation des choses, pour le dire très, très, très schématiquement. Mais la construction, hein, le bâtiment, ce sont les protéines. Et il est parti là-dedans. Et plus il avançait, plus il s'apercevait qu'on ne sait pas du tout comment les gènes, comment nos gènes, à base d'ADN, d'acides désoxyribonucléiques, savent comment appliquer les plans. S'il y a des plans à l'intérieur, c'est où l'architecte ou l'ingénieur qui utilise les plans repliés dans l'ADN pour... Et plus il avançait, plus c'était mystérieux. Parce que, par exemple... je parlais de la forme qu'a ton visage. Je le regarde. Tu sais que ces cellules se renouvellent sans arrêt. En permanence, tes cellules meurent et puis d'autres viennent les remplacer, etc. Or, elles savent exactement quelle était la forme de ton visage avant et comment le continuer à le perpétuer. Dans chacune des cellules de ton corps, il y a le même ADN. C'est le même, hein, c'est le même partout. C'est pour ça que si on trouve une trace de toi dans les enquêtes policières, on sait, c'est lui, ça ne peut être que lui. Or, les cellules qui sont au bout de ton nez, elles n'utilisent dans le plan replié dans leur ADN que la partie bout du nez. Parce qu'elles pourraient appliquer la partie pancréas ou la partie trou du cul, je veux dire, non. Elles savent exactement. Ou alors, ça devient un cancer. Le cancer, c'est que l'ADN se met à se développer anarchiquement. Non, non. Elles savent exactement qu'elles sont au bout de ton nez, elles savent qu'elles sont dans tes cheveux, elles savent toutes les parties de ton corps. Les milliers de différents tissus qui constituent ton corps utilisent le même ADN, mais savent exactement quelle partie de cet ADN. Or, comment elles le savent? Alors, on lui disait toujours, mais... bien entendu, on va bientôt le découvrir. On va le découvrir. Ça ne peut être que dans l'ADN. Où est-ce que ça serait ailleurs? Ça ne peut être que dans l'ADN. Mais plus ça avançait, et les recherches avançaient fort en matière de génétique, déjà dès les années 50, c'est des bons prodigieux. Années 50, lui, il fait ses études dans les années 60. C'est tout à fait extraordinaire. Dans les années 70 aussi, on prévoit qu'on va bientôt connaître tout le génome humain, hein, ce qu'on a su au début des années 2000, hein, finalement. Mais comment ça marche? Comment ça marche? Et surtout, comment les formes s'auto-engendrent? On n'en sait rien. Et il se met à creuser d'autres pistes. Il se met à lire, il est intéressé par la philosophie, il se met à lire Goethe, il lit Bergson aussi, il lit Whitehead, qui sont des gens qui, pour le dire très vite, ont tendance à mettre en garde les modernes, ou les contemporains, les post-modernes, on pourrait presque dire, mais c'est un reproche qu'on peut faire aux modernes en général, de penser que la solution à une question, à un problème, c'est de décomposer ce problème en tout petits bouts, et donc d'analyser, et ensuite essayer de remonter la pente, la piste, plutôt que de regarder d'abord l'ensemble, la totalité. Whitehead, c'est quelqu'un qui est holistique, qui dit qu'il faut d'abord considérer l'ensemble, pour comprendre comment fonctionnent les parties et non pas commencer par étudier les parties pour savoir comment fonctionne l'ensemble. En réalité, les deux sont bien entendu intéressants, sont complètement complémentaires. Mais en matière de génétique, c'est clairement beaucoup plus l'analyse qui a cours plutôt que la synthèse. De regarder un corps dans son ensemble, on ne sait pas bien quoi en faire. En médecine, ça évolue un peu différemment, parce qu'en médecine, on s'aperçoit que ben, un corps, c'est quand même un tout, ça c'est sûr, et qu'on peut analyser, par exemple, on peut faire une analyse génétique, on peut faire une analyse des neuromédiateurs, on peut faire une analyse des anticorps, enfin de toute l'immunologie, on peut faire une analyse des hormones, et il y a des gens qui sont des endocrinologues, ils connaissent surtout d'autres qui sont des immunologistes, se spécialisent. Au bout du bout du bout, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils travaillent sur des molécules, par exemple, qui sont très cousines, et qu'en réalité, on pourrait peut-être s'attaquer à quelque chose que les Américains ont appelé PNI, Psycho-Neuro-Immunology, parce que nous ne sommes pas juste hormonal. Sheldrake, il est attiré à ce moment-là, dans les années 70, il est attiré par les gens qui pensent comme ça, qui pensent plus synthétique qu'analytique. Et il va trouver alors toutes sortes d'autres phénomènes qui ne sont pas forcément liés à la biologie et notamment à la botanique, mais à d'autres phénomènes qui sont, par exemple, d'ordre chimique. Et là, c'est une question qui le tarabuste énormément, c'est qu'il découvre, enfin, il apprend de la part de collègues chimiste à Cambridge, que lorsqu'on crée un nouveau produit, une nouvelle matière, tu sais qu'en chimie, l'industrie chimique n'arrête pas, en particulier dans la pharmacie, mais dans toutes les, n'arrête pas de créer des nouvelles molécules. On met le moindre médicament est une molécule très complexe, moins complexe sans doute que les molécules de la nature, parce que une fleur, tu regardes une fleur, il y a 300 molécules différentes là-dedans. La nature est hyper, hyper complexe. Mais quand on fabrique dans l'industrie une nouvelle molécule, mettons, je ne sais pas, un nouveau médicament ou une nouvelle matière plastique, les chimistes apprennent à Sheldrake, qui ne le savait pas, qu'on met toujours un certain temps, et quelquefois un temps long, pour obtenir la cristallisation de cette nouvelle molécule. Et puis, on s'aperçoit qu'une fois qu'un laboratoire, quelque part dans le monde, a réussi à obtenir le cristal, comme par hasard, ça devient un peu plus facile ailleurs, et puis encore un peu plus facile, et puis au bout d'un moment, n'importe qui dans n'importe quel laboratoire cristallise cette nouvelle molécule sans problème. Et ça intrigue beaucoup Sheldrake, et alors c'est comme ça que peu à peu va lui venir l'idée des champs morphogénétiques ou morphogéniques, enfin, ou l'idée de la résonance morphique. Il y a plusieurs mots pour dire un peu la même chose. Parce que l'explication officielle, c'est de dire, vous savez, les chercheurs se baladent dans le monde entier, et une fois qu'on a cristallisé un nouveau produit dans un laboratoire à Sydney, eh bien, ça se balade. Les cristaux peuvent être extrêmement fins. En nanoparticules vont se balader, en gros, dans la barbe du chercheur. Et le chercheur, il va voyager, il va se retrouver à Londres. Et à Londres, il va y avoir comme des germes, un peu comme si les cristaux étaient des virus. Exactement. La même chose, quoi. C'est une infection virale. Sheldrake ne voit pas les choses comme ça, et peu à peu émerge dans son esprit l'idée. En fait, il reprend une idée très ancienne, mais il la modernise, puisqu'il est un chercheur scientifique. C'est l'idée que les formes, toutes les formes, comme je disais, depuis les plus matérielles jusqu'aux plus éthérés, les plus psychiques, obéissent en fait à des lois propres dont la science moderne ne tient littéralement pas compte. Et qu'à toute forme correspond un champ, de la même façon qu'à un courant électrique correspond un champ électrique, n'est-ce pas ? De la même façon qu'à une tout photon qui circule, les grains de lumière, il y a un champ photonique, eh bien, il y aurait un champ de forme. Quand une nouvelle forme apparaît, apparaît aussi un nouveau champ. Et ce champ se renforce à mesure que la forme se matérialise. Mais c'est un champ dont les chercheurs ne pourraient pas tenir compte parce qu'elle n'est pas énergétique. Elle est sans énergie. Un champ sans énergie, alors évidemment, c'est très hérétique. C'est très hérétique. Et quand Sheldrake publie son premier article, en l'occurrence dans une revue dont je ne me souviens pas le nom, parce que c'est une revue tout à fait professionnelle, liée, je crois, à Cambridge, la revue Nature, la grande revue, la plus grande revue scientifique du monde, on pourrait dire, s'enflamme contre. Et celui qui en est le patron à l'époque, John Maddox, Buffle fou, Buffle fou, va jusqu'à écrire, il est tellement emporté contre Sheldrake, contre cette idée, qu'il écrit « Is it a book to be burnt ? Faut-il brûler ce livre ?» Brûler ce livre. Alors le New Scientist, qui est une revue... parce que Nature, c'est vraiment la revue orthodoxe, elle défend le dogme. Alors ça, tu vois, tu ne peux pas faire plus dogmatique. Le dogme, bien entendu, scientifique, matérialiste, contemporain. Hein, tu ne peux pas circuler si jamais tu refuses ce dogme, tu n'es pas bien vu. Et on se propose même de brûler ton livre, ce qui est quand même un peu fort. Et le New Scientist, qui est plus hérétique, quelque part, qui est plus audacieux, plus... provocateur aussi, non seulement publie plusieurs articles pour dire « mais c'est une hypothèse très intéressante », elle reste à prouver, bien entendu, l'hypothèse que à toute forme correspond un champ, que ce champ se renforce, qu'il est sans énergie et qu'il traverse peut-être l'espace-temps. Et Sheldrake pousse très loin puisqu'il dit « moi je pense que ça concerne même les formes psychiques ». C'est-à-dire que s'il y a une habitude qui est prise, par exemple, par un groupe, une population, une population prend une habitude, et puis tout le monde va se comporter comme ça petit à petit, eh bien ça va créer un champ, le champ de cette habitude, et qu'ensuite, ça sera plus facile de prendre cette habitude, ça peut même avoir une emprise sur...
Oui, donc en feuilletant le livre, je suis tombé sur un exemple qu'il donne et qui est très californien, c'est le surf. Et il dit donc qu'une fois que le surf a été inventé, ce qui était difficile à apprendre devient facile. Alors je ne sais pas si ça fait image, mais...
Tout à fait.
Pour moi, je veux dire pour les gens qui nous écoutent, est-ce que ça fait image pour eux? Mais pour moi, ça faisait image et en plus, ça renforce très fort le côté californien.
Oui, tu as raison. Les Californiens étaient. Mais lui, il était dans la première conférence que j'ai assistée. Lui, il était très British, tu vois, en chemise blanche, un peu raide, vraiment le British parfait. Alors qu'autour de lui, il y avait des Californiens qui étaient, qui avaient pratiquement leur planche de surf à la porte. C'est vrai. Tu parles du surf, mais c'est vrai de la bicyclette, par exemple. Ouais, aujourd'hui, ça demande à être vérifié. Ça demande à vérifier. Et la revue New Scientist, donc on est au début des années 80, Nature s'emporte en disant... Alors pourquoi avant d'en revenir à New Scientist, Nature, pourquoi ils s'emportent? Ils s'emportent parce qu'ils disent, mais ça c'est un retour à l'idéalisme. C'est un retour à l'idéalisme. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que disait Platon. Platon disait, il y a des idées pures, et puis ces idées pures, hein, dans sa vision idéaliste, d'abord il y a des idées, ces idées s'incarnent plus ou moins bien, mais nous savons, modernes, matérialistes, sceptiques, nous savons que c'est pas du tout, il y a d'abord l'existant et après l'essence en quelque sorte. Nature est anti-essentialiste, il n'y a pas d'essence.
On va écouter un petit morceau de musique si tu veux, ça nous permettra de reprendre notre souffle.
Avec plaisir.
hidey, hidey, ho with me. Has a lick of teen, it's a scream and it's free. Have it in your food, you can have it with your tea. As you're thinking and you're pondering and wonder what it be. Hidey, hidey, ho is a Callaway vibe. Where you're hip and you're clean and you ain't taking no jive. Speaking of jive, I think I was on a label that was a long time ago. That was a fable. Hidey, hidey, ho, when you're looking in your mirror. When you're fit, you're legit and it can't get any clearer. You're the weave, you're the rave, the unanimous conclusion. Cutting the bad like Stevie Wonder with contusions. It's a guitar Chuck coming for Chuck Berry. High tones from Minnie Rip, Mariah Carey, Elijah Wild, Punk Smooth, Brianna, Embiid. Everybody got it in to find yours and succeed.
Have some of this hidey hidey ho with me. Have some of this hidey hidey ho with me. Have some of this hidey hidey ho with me.
Et donc, tu voulais me parler de musiciens, de choses, pour faire image sur, sur la question qu'on situe bien où est l'enjeu.
Pour faire image, alors, donc, toi, tu parlais du surf, moi, je te réponds le vélo, mais il y a des hypothèses qui ne sont pas encore prouvées que le feu a été, la maîtrise du feu a été découverte par nos lointains ancêtres il y a, je ne sais plus, 600 000 ou 700 000 ans. Un peu vers la même époque, à des endroits très différents, et ça, c'est sûr qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas communiquer. Donc, c'est comme si, dans l'air du temps, flottait une même idée. Une même idée. C'est toi qui me disais, pendant cette parenthèse musicale, que des découvertes, tu parlais d'Edison.
Oui, bien sûr. Et tout ce qu'il y a autour du son, de l'image, tout ce qui va donner le cinéma, mais partiellement, comme ça, est inventé dans des endroits très différents, entre gens qui ne communiquent pas entre eux. Ça naît spontanément comme quelque chose qui sortira du sol.
C'est ça. Alors, on peut dire, c'est parce que l'époque charrie une certaine culture, que cette culture, elle est quand même grosso modo partagée, et que ça peut sortir comme ça. Mais, par exemple, j'en parlais avec un grand ami musicien zaïrois ou congolais, je ne sais plus comment on dit maintenant, Ray Lema, qui me disait, mais ça c'est connu chez les musiciens, si une nuit de grande inspiration te vient une nouvelle mélodie, note-la vite et dépose-la vite, ou fais-la connaître, fais savoir que c'est toi qui as trouvé cette mélodie, parce qu'on sait que cette idée que tu as eue, un autre va l'avoir très vite. Et là, ça devient plus subtil que l'idée que c'est charrié par la culture, parce que c'est quand même une forme tout à fait singulière qu'une mélodie. Une mélodie. Et donc, à cela, Rupert Sheldrake dit oui, au moment où tu crées dans ta tête une nouvelle mélodie, puis ensuite tu la joues sur ton piano, sur ta guitare, tu crées par là même un champ de forme, le champ de forme de cette mélodie. Et ce champ, au début, il est très faible, bien sûr. Mais si cette mélodie prend et se met à se répandre, elle va se répandre partout. Sheldrake découvre en quelque sorte ce que dans les anciennes cultures, on appelait un égrégore. Un égrégore, c'était déjà ça. C'était l'idée que c'était l'idée d'un champ de forme. Mais alors évidemment, de façon beaucoup plus magique, on pourrait dire, qu'aujourd'hui. Alors que Sheldrake reste scientifique. Il essaye le plus possible de rester scientifique. Il essaye notamment de trouver des expériences où on pourrait démontrer sa chose. Et alors quand je l'ai rencontré là dans cette première conférence en Californie en 1983, il a tout de suite voulu nous faire une expérience. C'est-à-dire qu'il nous a mis face à nous trois petits textes qui étaient trois petites chansons japonaises, et aucun de nous ne parlait le japonais. Trois petites chansons, et il nous les a fait répéter pendant tout le temps qu'a duré son atelier, c'est-à-dire plusieurs heures. C'était une longue après-midi californienne, et toutes les demi-heures à peu près, on répétait, on chantait tous les trois chansons. Il y avait une petite mélodie, et puis sur ces trois chansons, il y en a une qui est une berceuse très connue qui a été chantée des milliards de fois au Japon. Donc c'est une forme, et le chant de cette forme doit être puissant, puisqu'elle a été répétée des milliards de fois. L'autre était beaucoup, beaucoup plus récente, et l'autre ne voulait rien dire, en réalité. Était du faux japonais, ça voulait rien dire. Et pendant toute l'après-midi, toutes les demi-heures, on faisait un petit exercice de chanter ça, et à la fin, il fallait voir, et je crois que ça a été concluant, laquelle nous restait en tête, laquelle on pouvait pratiquement répété par cœur sans les textes. Et des expériences comme ça, il les multiplie. Et alors lui arrive, et le New Scientist l'aide beaucoup, parce que le New Scientist organise à ce moment-là, entre 1981 et 1985, ils organisent des concours avec des récompenses tout à fait intéressantes à qui apportera la démonstration la plus forte. Pour dire oui, c'est une hypothèse intéressante. Et alors je ne sais plus, hein, je suis désolé, mais je ne sais plus qui a gagné le concours, mais je sais que plusieurs candidats à ce concours avaient apporté l'histoire qu'on connaît par ailleurs sous la forme du centième singe, je crois, mais là c'était avec des rats de laboratoire, c'est-à-dire que les malheureux rats dans les laboratoires psychozoologie, on les soumet à toutes sortes de tests, les rats et les souris de laboratoire. Et on leur invente, par exemple, des labyrinthes compliqués où ils se perdent. Et évidemment, au bout, il y a une récompense, mais il faut que le rat ait longuement cherché avant de trouver la sortie du labyrinthe. Et le fait est que une fois que un rat a trouvé la sortie du labyrinthe quelque part dans le monde, eh bien ça devient un peu plus facile aux autres rats, et puis de plus en plus facile, et à la fin, ben les rats trouvent la sortie tout de suite, alors que ce sont de nouveaux rats soumis, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec les rats de la première expérience. Alors ça, l'expérience des rats, elle est connue comme tout. C'est un des éléments forts de Rupert Sheldrake. Moi, personnellement, ça me séduisait, mais on pourrait dire presque idéologiquement, c'est que je me trouvais... J'étais un peu flippé, on pourrait dire, d'un point de vue politique. Parce que je me disais, ça devait être au moment où le règne du président François Mitterrand commençait à montrer qu'en réalité... on était un pays libéral capitaliste.
Les privatisations, quand il revient, c'est après 83, quoi.
Oui, finalement, ça a raté. Ça a raté le rêve. Il y avait un petit rêve de grand soir.
Ça a duré 2 ans.
Ça a duré 2 ans. Et là, donc, on se dit, bon, ben, en fait, le capitalisme est trop fort. Il est... Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Qu'est-ce que tu veux faire Et l'idée de Sheldrake, tout d'un coup, elle m'amène à me dire, mais même si tu es seul, enfin seul, vraiment seul, c'est difficile, mais si une communauté invente un nouveau comportement, mais complètement nouveau, quelque part dans le monde, et qu'il le mette en pratique, qu'il l'incarne, qu'il le matérialise, eh bien, si c'est vraiment nouveau, alors le problème, c'est que c'est pas facile de créer quelque chose de vraiment nouveau. Mais si c'est vraiment nouveau, ça va créer un champ. Et ce champ, s'il est... Alors, il faut qu'il soit répété par d'autres communautés, par exemple. Mais, peu à peu, on peut influencer l'humanité entière. Sans avoir forcément accès aux médias. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, on se dit, bon, mais si t'as pas accès aux médias, t'es cuit. Tu peux inventer tout ce que tu veux. Mais non. Parce que le champ, lui, il est complètement invisible. Il traverse l'espace-temps. Et... Nous en avons eu à ce moment-là des démonstrations. C'était très années 80. C'était le côté un peu encore utopique, presque hippie, on dirait, je dirais, un peu 68 art californien qu'on a eu. C'est qu'il s'est mis à y avoir, et je ne sais pas si ça existe toujours, je pense que oui. En particulier, j'ai des amis à Ibiza qui continuent à faire ça. Par exemple, il y avait eu en Espagne des expériences. Le ministère de la Justice espagnol avait accepté que soient faites des expériences dans les prisons espagnoles, en particulier dans des prisons de femmes, que quelques femmes méditent, elles fassent de la méditation. Il y a un groupe de méditation dans une prison de femmes, notamment, je me souviens, à Barcelone. Alors évidemment, toutes les femmes ne s'inscrivent pas, il y en a juste... 10 ou 12 que ça intéresse, mais toutes les autres, si c'est une prison qui contient 1000 prisonnières, voilà. Eh bien, le fait qu'un petit groupe de femmes médite dans cette prison aurait, semble-t-il, paraît-il, et il faudrait vraiment multiplier les expériences, mais c'est toujours pareil, quand il y a une science un peu hérétique, eh bien, comme par hasard, les universités, les centres de recherche ne font pas l'expérience. Puisqu'il dit ça n'a aucun intérêt, ne le faisons pas. Mais il semblerait bien, et j'avais lu à l'époque des choses qui venaient du ministère de la justice espagnole, que ça calmait l'ensemble de la prison. C'est-à-dire que si un petit groupe de femmes médite dans une prison, alors, eh bien pour Sheldrake, l'explication était simple, c'était que ça créait un champ de forme. Pacifique, tu suis le raisonnement.
Oui, bien sûr.
Et là, tout d'un coup, ça m'a rappelé des choses plus anciennes, à l'époque où les Beatles s'étaient mis à faire du yoga. Je ne sais pas si tu te souviens, en Inde, ils s'étaient mis à faire du yoga avec, comment il s'appelait, le yogi Maharishi, Shri Yogi, machin truc. Ce qu'ils se disaient, et il y avait même eu à l'époque des publicités, des grandes publicités, il devait y avoir des moyens derrière, parce que c'était du genre publicité qui prenait une page dans le journal Le Monde, hein, en disant, si on se concentre tous sur une idée pacifique, harmonieuse, un peu au même moment, eh bien, ça crée une onde. Alors eux, ils ne parlaient pas de champ morphogénétique, mais ça crée quelque chose qui a une influence sur l'ensemble. J'ai revu des choses comme ça pas mal en Asie. Ils l'ont fait assez systématiquement dans les pays du sud-est asiatique, en Thaïlande, où est-ce qu'ils l'ont fait en Thaïlande, je suis sûr, mais je crois ailleurs, cette idée d'un regroupement à un moment donné. Mais voilà, le relais, c'est ça serait conditionnel. Un champ, une résonance morphique, comme dit Sheldrake. Et alors, c'est quoi ce champ sans énergie qui traverserait l'espace et peut-être même le temps. Sheldrake, alors, comme il est, alors ça n'arrange pas son matricule face à des gens qui sont matérialistes, athées, etc., il se trouve qu'il est chrétien et qu'il a tendance à penser, par exemple, et dans le premier livre qu'on a publié chez Trédaniel, qui est un tout petit livre, parce qu'on fait une collection Sheldrake, en fait, chez Trédaniel.
Hein, vous venez de commencer une collection.
On commence une collection. Et on espère le faire venir en 2023 en France.
Et donc la collection, elle comprendra combien de volumes comme ça?
Pour le moment, il y en a 4 qui sont programmés. Oui. Donc il y en a un qui s'appelait, le premier qui est sorti, malheureusement juste avant le Covid. Donc ça, le Covid a tout cassé hein, sur plein de plans. Mais la sortie n'a été pas très remarquée. Ça s'appelait « Science et pratiques spirituelles ». Et là-dedans, il revient sur une chose qui lui est chère à lui, et sans doute pas à toi, et peut-être un peu moins à moi aussi, c'est la force du rituel. Un rituel. C'est quoi la différence entre un rituel et une routine? Toutes les grandes pratiques spirituelles s'appuient sur des rituels. Mais est-ce que c'est une routine, une simple répétition, et puis tout le monde dort, quoi? Ou est-ce que c'est la mise en résonance? Pour prendre le rituel le plus courant chez nous, c'est quand même la messe. La messe, au moment où, je ne sais pas quoi, où le prêtre lève l'hostie, ça s'appelle la consécration, et dans l'hostie est censé incarner Jésus, n'est-ce pas ? Jésus-Christ. Pour quelqu'un comme Sheldrake, à ce moment-là, il entre en résonance avec toutes les fois précédentes, et donc les milliards de fois précédentes, où ce geste a été fait par des humains, quelque part sur la planète. Tu vois le truc.
Mais alors, dans ce sens-là, nous sommes on a le même âge, on est une génération de rupture. Enfin, moi qui ai eu une enfance catholique,
oui.
C'est rompre avec ce geste. Alors, j'amassais les rituels, mais j'ai pas la foi.
Oui.
Donc, tous les rituels, et je pense particulièrement à la musique. Je ne peux avoir de préjugés contre personne, y compris contre le pire des islamistes, à côté, pour parler d'aujourd'hui, à cause de la musique. La musique est pour moi un rituel. Hein. Si on pense aux Gnawa marocains, par exemple,
oui.
je tue la bête avec eux, je bois le sang avec eux, et je sais que ça va me soigner, et que je suis en train de soigner quelqu'un d'autre, et que je donne tout ce que j'ai dans ce rituel. Mais je n'ai pas la foi. C'est-à-dire que c'est la réalisation réelle. C'est le contraire de ce que tu viens nous expliquer. Je ne suis pas porté par un chant qui existe, je ne suis porté que par l'effectivité de la réalisation réelle du rituel à ce moment-là. C'est le chamanisme, quoi, en gros.
Mais je te rejoins en grande partie parce que moi, je pourrais dire que je n'ai pas la foi. Moi, je vis des expériences.
Oui, c'est ça.
Mais
il y a la drogue.
Mais qu'est-ce qui te dit que les... Oui, mais même sans drogue.
Ah oui, mais
même sans drogue, ça, bien sûr.
C'est
avec
le meilleur
drogue,
exemple.
Avec drogue, c'est fantastique. Mais avec drogue, c'est difficile de
rationaliser.
De rationaliser, justement. Mais enfin, encore qu'on pourrait.
On le fait.
Je pense que même dans une expérience chamanique vécue, rien ne te dit que tu n'entres pas en résonance avec ceux qui l'ont fait avant. Mais tu me diras, là, toi, ça te fait une belle jambe, là.
C'est ça. Donc, ce qui compte pour moi, c'est cette réalisation effective.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est très difficile d'assumer le catholicisme. Enfin, la part de négatif est tellement plus grande que la part de positivité.
Oh,
à
oui.
l'intérieur de nos sociétés, surtout si on a reçu cette éducation.
Bien sûr. Non, mais ça, c'est pas la question. C'est simplement pour te dire, bon, ce que...
On n'est pas américain, quoi.
Oui, pour le meilleur et pour le pire, je dois dire que moi j'ai beaucoup d'amis autour de moi en ce moment qui sont très 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 anti-américains, on leur doit quand même beaucoup, moi c'est quand même...
Je les aime bien.
J'ai voyagé pas mal dans le monde, aujourd'hui, non, il y a différents pays où j'aimerais vivre, mais quand même, l'Amérique, c'est très, très, très intéressant, oui, ça reste très créatif.
Je n'ai pas du tout, je ne les accuse pas, hein. Je ne sais pas, par exemple, j'adore Kadik,
oui.
Peu importe,
oui.
Mais je me reconnais dans Kadik, tout à fait.
La science-fiction...
Ses tourments, et puis toutes ses expériences théologiques,
oui, oui.
Son exégèse, tout ça... Et donc c'est vraiment l'américain pop, enfin c'est générationnel quoi. C'est
oui. Oui, tout à fait, tout à fait.
Pour revenir à ton livre, la morphogénèse.
Pour revenir, alors là, donc on revient au livre La mémoire de l'univers, Rupert Sheldrake, qui est sorti, qui vient de sortir chez Très Daniel, et qui est donc le deuxième livre de cette collection. Il y en aura au moins quatre. Il y en a un autre qu'on est en train de traduire et qui s'appelle The Way Beyond, le chemin au-delà. Au-delà, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne l'ai pas encore lu. Et puis il y en a un quatrième qui a été déjà publié, mais dont Sheldrake a fait une édition augmentée et corrigée. C'est sur. Parce qu'il s'est beaucoup intéressé aux animaux. Beaucoup de ses expériences porte sur les animaux, par exemple sur une expérience, et là qu'on peut objectiver plus facilement, c'est celle du chien qui attend son maître. Le chien, à une certaine heure, va se pointer à la porte, parce qu'il sait que son maître va arriver. Quand le maître arrive tous les jours à la même heure, c'est facile à comprendre. Quand le maître arrive, le maître ou la maîtresse, arrive de manière aléatoire, quand c'est un représentant de commerce qui voyage, on met en gros une caméra sur le chien et une caméra sur le maître. Et le maître, il est parti, il est même à l'étranger, puis à un moment donné, il décide, je rentre. C'est au moment où il décide qu'il rentre que le chien vient se pointer à la porte. Comment le sait-il ? Quelle est cette... Et là, on rentre dans un monde que Sheldrake explore aussi, qui serait, disons, la télépathie, par exemple. La télépathie, c'est comment ? Et puis, alors, il fait plein d'expériences là-dessus. Des expériences du genre... alors, il y a des expériences hyper simples. On met quelqu'un derrière un téléphone, et cette personne sait... Que le téléphone va sonner, ça on la prévient, il va sonner, mais elle ne sait pas qui appelle. Et sur les... par exemple, elle a une liste, ça peut être 7 personnes différentes qui peuvent appeler. Et au moment où il sonne, elle met la main, j'allais dire sur le combiné, comme si on avait encore des téléphones comme ça, mais au moment où elle voit que ça sonne, elle doit dire un nom. Elle doit dire un nom, alors on va dire, elle le dit au hasard, elle dit un des 7 au hasard. Mais on fait des statistiques pour voir, et c'est très étonnant, nous devinons, et alors nous devinons d'autant mieux que c'est quelqu'un à qui nous sommes affectivement liés. Et pour les animaux, c'est pareil d'ailleurs, l'animal il est très lié, il est fondu quelque part dans une psyché collective de la famille. Il en fait complètement partie, si c'est un chien... Enfin, le coup de l'habitude d'aller à la porte quand le maître va arriver, c'est évidemment un chien qui est complètement fondu dedans. Et eh bien, c'est quoi ce truc ? Lui, il dit, mais c'est tout simplement des chambres. Il ramène ça, n'est-ce pas ? Quelque part, il simplifie pas mal de phénomènes inexpliqués de cette façon-là. Alors,
on va écouter un petit morceau de musique et puis après, on reprendra. We'll be right back.
Ladies and gentlemen, please welcome to the stage. Ah, my sister. My inspiration. The voice of life. The one and only Chaka Khan.
Donc nous sommes sur Aligre FM 93.1, dans La vie est un roman, et je suis en train de parler avec, enfin je suis en train d'écouter attentivement Patrice Van Hersel, qui nous parle d'un livre de Rupert Sheldrake, qui est paru chez Très Daniel, La mémoire de l'univers, dans une collection consacrée à cet auteur. Et donc oui, donc tu étais en train de parler des animaux,
oui.
Quoi d'autre ?
Il s'intéresse beaucoup aux animaux. Pour revenir un tout petit peu à la science... En réalité, pour le moment, parce que pour qu'une thèse soit, une hypothèse soit validée et puisse être inscrite dans le corpus scientifique d'une époque, ça c'est les critères de Karl Popper, c'est resté, il faut que l'expérience soit répétable et il faut qu'elle soit falsifiable. C'est-à-dire qu'on puisse imaginer l'expérience qui, si elle était négative, invaliderait l'hypothèse, n'est-ce pas ? Or, c'est là-dessus pour le moment que bute Sheldrake, parce qu'on n'arrive pas, à trouver l'expérience qui falsifierait. L'expérience qui, si elle était négative, permettrait de dire, ben, monsieur, vous vous êtes trompé, vous êtes retourné à autre chose. Et... d'une certaine façon, je dirais qu'il réagit pas trop mal, parce que des grands hérétiques de la science, on en a connu. Et quelquefois, ça les rend malades, et quelquefois, ça les tue. Par exemple, Jacques Benveniste, homme tout à fait rationnel, qui dirigeait un grand labo spécialisé dans les allergies à l'INSERM.
Ah, donc c'est pas le linguiste ? C'est un autre Benveniste.
Non, Jacques Benveniste, ouais. L'homme de la mémoire de l'eau,
ouais.
Celui de la mémoire de l'eau, que le système a littéralement mis à mort. Et a commencé par la revue Nature, parce qu'il avait publié, il avait réussi, je fais une petite parenthèse là, mais il avait réussi à publier dans Nature un truc disant « mais oui, apparemment, c'était pour expliquer l'homéopathie ». Mais lui, il avait pris ça de manière ultra-scientifique à partir d'une expérience qui s'appelle la dégranulation des basophiles, c'est un truc très, 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 très précis dans la cellule que lui connaissait bien. Et il s'était rendu compte que l'homéopathie, ça marchait. Or, l'homéopathie, c'est pas du tout persona grata. Parce que, il y a d'ailleurs sur YouTube, je conseille aux gens d'aller voir sur YouTube, il y a un très beau documentaire sur la mémoire de l'eau. Où on voit comment Jacques Benveniste a été mis à mort. Il est mort du cancer, mais d'une façon fulgurante. Moi, je le connaissais, c'était un homme tout à fait solide, enthousiaste. On peut dire un type rigoureux, vraiment, en science. Et à partir du moment où Nature, qui s'était fait avoir dans un premier temps, parce qu'il a pu publier, puis ensuite ils sont venus avec des magiciens chez lui pour prouver qu'il avait triché, enfin je veux dire un sale truc. Je pense que dans l'histoire de la science, on racontera un jour que la science officielle n'a pas été très jolie à ce moment-là. Et le type est mort du cancer assez vite. Ça a été repris par Montagnier, le prix Nobel, le découvreur du HIV, du sida, du virus du sida. Et bien, à partir du moment où il s'est intéressé, on a dit, mais il devient fou. C'est pas parce qu'il est prix Nobel, il est de... Et des Italiens ont suivi les travaux, des Chinois ont suivi les travaux. Mais il y a quelques Français, mais très marginaux, parce que figure-toi que on a beaucoup entendu de critiques contre Big Pharma pendant toute l'histoire du Covid. Mais là, je peux te dire que Big Pharma, si l'histoire de la mémoire de l'eau était démontrée, Big Pharma a des gros soucis à se faire parce que je peux t'envoyer par Internet un médicament. Je peux te l'envoyer par Internet. Tu n'as plus besoin de l'acheter à la pharmacie. Tu vois, si je peux faire ça, je peux te soigner en t'envoyant d'une façon électromagnétique une équation. C'est exactement. Et donc là, les contestataires officiels, fiers d'eux-mêmes, qui contestent Big Pharma partout, ils devraient bien s'intéresser à la mémoire de l'eau et à la façon dont on a éliminé ce sujet de la scène. Et pour Sheldrake, et donc Benveniste est mort, Montagnier, on l'a vilipendé à la fin, il est mort maintenant aussi, mais d'autres gens comme... des chercheurs qui ont trouvé un truc énorme et qu'on nie, qu'on disqualifie et qu'on vilipende, il y en a plein. Et souvent, ils deviennent ma boule, ils meurent ou ils deviennent méchants. Ils deviennent caractériels, parano. Or, Sheldrake, non. C'est vrai que son ambition était quand même énorme. C'est-à-dire que si c'est vrai, si son hypothèse est vraie, si toute nouvelle création de forme, que ce soit naturelle ou faite par les humains, toute création de forme crée un champ dont la science, qu'elle soit physique ou biologique ou ce qu'on veut, ne tient pas compte, c'est énorme. C'est comme on met là sur la couverture, comme tu disais, une hypothèse révolutionnaire qui pourrait remettre en cause notre vision du monde. Il est un peu normal que le système se défende. On va pas accepter comme ça, parce que le système se défend, il a ses anticorps, il élimine ce qui pourrait remettre en cause le paradigme en place. Et Sheldrake ne le prend pas mal. Il le prend pas mal, notamment parce qu'il fait toutes ces expériences qui sont très amusantes. Je parlais de la télépathie, par exemple, mais il en fait des tas comme ça. Il étudie beaucoup les animaux lui font beaucoup de bien, et alors il chante, alors on parle de chant morphique, mais ça c'est le chant CHAMP, mais il est aussi intéressé par le chant CHANT, ça c'est par sa femme, Jill Peirce, qui a été une élève de Stockhausen, mais qui a aussi suivi des cours avec des Mongols qui font des... Tu sais, les
chamans.
Les fameux chamans qui ont des chants. Elle s'intéresse à tout ça. Et j'ai l'impression, ça c'est un couple très intéressant. Moi j'aime beaucoup aller les voir à Londres, Rupert Sheldrake et sa femme Jill Peirce. Parce que alors Jill Peirce, elle est rentrée dans quelque chose... des amis brésiliens m'ont dit, mais c'est tout simplement du candomblé. Le candomblé, au Brésil... C'est une pratique spirituelle, thérapeutique, où les gens chantent, je pense, entrent plus ou moins en transe, hein, mais font venir les ancêtres. En chantant, elle fait venir. Et Jill Peirce, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la psychogénéalogie, la thérapie transgénérationnelle. C'est un sujet qui m'a bien intéressé aussi à un moment donné, c'est-à-dire que nous sommes le prolongement, nous appartenons à un arbre généalogique, hein, qu'on le veuille ou non, même si, comme tu disais tout à l'heure, on a pu être des 68 arts qui voulaient du passé faire table rase et dire « moi je romps avec tout ça », sauf qu'en réalité, tu portes bien les gènes de tes parents, que tu le veuilles ou non, et ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en réalité tu portes tout un arbre généalogique, et la psychogénéalogie montre comment tu peux guérir des trucs qui te poursuivent, tu peux en guérir, mais tu peux aussi prendre conscience que tu bénéficies de choses que tes ancêtres ont acquises, et de ce point de vue là il y a... Dans cette nouvelle version de la mémoire de l'univers, il y a toute une partie sur l'épigénétique, qui est un sujet aussi qui est très intéressant, parce que tu sais, on dit que, bien entendu, nous sommes issus des gènes de nos parents, mais on dit que les caractères acquis ne se transmettent pas. Ça veut dire que si ton père ou ta mère, au cours de leur vie, avaient, par accident ou volontairement, changé des choses dans leurs gènes, ils n'ont pas pu te les transmettre, cette idée. Et cette idée continue à être validée. En revanche, ce qu'on découvre de plus en plus, et ça change complètement la génétique, c'est que par leur comportement, tes parents, alors ça peut être négatif ou positif, un négatif par exemple s'ils s'étaient mis à devenir alcoolique, très 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 caractéristique comme pratique, mais ou alors au contraire, si ce sont des gens qui ont été très en harmonie avec eux-mêmes, avec leurs proches, si c'est des gens qui se sont élevés en conscience, qui ont été très sains, enfin je veux dire qui ont... Eh bien dans les deux cas, ce qui se transmet, c'est non pas le gène, mais c'est la façon dont le gène s'exprime. Et ça ouvre des boulevards immenses. C'est-à-dire que la façon, avec le même gène, le même gène peut être d'abord allumé ou éteint, et les gènes peuvent s'influencer les uns les autres. Donc on n'est pas sorti de l'auberge.
Merci.